Bonjour, ici Hugo Prévost, le rédacteur en chef de pieuvre.ca. Si vous aimez nos épisodes de podcast, si vous aimez ce qu'on publie sur notre site, je vous invite à nous encourager en vous abonnant à notre page Patreon. Pour seulement 5 $ par mois, ça vous donne accès à une séance de questions-réponses. Ça vous donne également accès à des épisodes en primeur du balado Rembobinage. Et nous, avec votre contribution, ça nous permet de payer nos journalistes, nos pigistes. Ça nous donne aussi l'occasion de développer de nouveaux concepts, de nouvelles émissions. Et ça nous permet, bien sûr, d'acheter du matériel. Je vous remercie énormément et bonne écoute. Bonjour Kevin, bienvenue à la rentrée scolaire déjà. Il est déjà le temps de terminer l'été. Comment ça va?
Ça va bien Hugo, et toi?
Oui, ça va bien. Non, je fais des blagues de rentrée scolaire. Bon, ni toi ni moi n'avons d'enfants, mais il y a déjà les publicités pour les fournitures scolaires. Ça fait déjà une semaine ou deux. Alors, il y a déjà des feuilles jaunes dans les arbres.
Quand t'as pas d'enfant, quand t'es pas professeur, rien, ça change pas grand-chose, dans le fond.
Non, effectivement. Mais bref, le temps passe vite, c'est ça que je voulais dire. Le temps file, bientôt c'est Noël. Alors, j'espère que t'as commencé à acheter tes cadeaux, magasiner ton sapin. Non, je fais des blagues parce que on a pris une dizaine de jours de congé. Donc, j'étais moi-même en vacances. Je suis parti en vacances en Mauricie. Et je vous fais pas le récit de mes vacances en Mauricie. Mais bref, voilà, ça fait du bien de sortir de la ville, ça fait du bien de sortir de Montréal un peu, d'aller dans le bois un petit peu. Et là, on est de retour, donc un nouvel épisode, bien sûr, de Rembobinage. De retour avec un film, avant les vacances, on avait fait de Mommy, on avait fait Bon Mission Impossible. C'était beaucoup de films avec des explosions ou des courses-poursuites ou des batailles. Là, on change de style complètement. Qu'est-ce qu'on a vu cette semaine, Kevin?
On a vu un film qui, justement, se passe en Mauricie. On a vu Une femme respectable de Bernard Raymond.
Oui, effectivement, Bernard Raymond, que je connaissais de nom. Je le connaissais surtout pour les blagues sur son cinéma à La soirée est encore jeune, où on disait que c'était des films où une femme d'un certain âge mangeait de la soupe. Ah. C'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, mais la blague étant que c'est des films lents.
Je sais pas s'il mange de la soupe ou un genre de ragoût ou quelque chose. On est un peu dans la catégorie un repas servi avec une louche.
Voilà, effectivement. Mais bon, c'est le gag, effectivement, qui est peut-être un peu facile à faire. Bernard Raymond qui a dit, semble-t-il, récemment, que ça allait être son dernier film, possiblement. Donc, c'est un peu étrange, en tout cas pour moi, de le découvrir, peut-être avec ce serait son dernier film. Est-ce que toi, tu avais vu d'autres œuvres de M. Raymond?
Oui, j'ai vu... il a fait une trilogie thématique... de 3 films, dont La Neuvaine, La Donation et un autre que j'oublie le titre. J'avais vu aussi son plus récent, je pense que ça s'appelait Pour vivre ici ou quelque chose du genre. Mais c'est ça, fait que j'ai quand même une bonne conception de son cinéma qui a un style quand même particulier, que je comprends qu'on puisse faire des blagues parce que c'est tellement... C'est pas des films de leur époque, là. C'est vraiment des films qui auraient pu être tournés dans les années 40, là.
Effectivement. Donc, c'est ça, tu disais, on est 40, ça se passe dans les années 30. Je peux peut-être vous faire un résumé rapide. Mm-hmm. De toute façon, c'est assez... je veux pas dire léger sur le plan scénaristique, mais c'est assez simple dans ce sens-là. Pas dans le sens péjoratif du terme, mais dans le sens que, on faisait des blagues avant d'enregistrer. On dit, je te disais que c'est pas Mission Impossible. Mission Impossible, qu'il y a quelques détours scénaristiques, là, c'est un peu tortueux des fois. Là, on est vraiment beaucoup plus simple dans le sens où c'est assez unidirectionnel, mais ça reste, selon moi... un très bon film. Donc voilà, ça se passe en fin 1931, début 1932, à Trois-Rivières. Tu parlais de Mauricie, donc ça se passe à Trois-Rivières. C'est la crise économique, c'est la dépression, donc depuis déjà quelques années, et ça va pas bien. Et là, on fait la connaissance de Rose, qui est une femme, je pense, à la quarantaine, est-ce que c'est ça?
quarantaine environ.
Voilà, dans ce coin-là. Et qui, on l'apprend, bon, a été marié à Paul-Émile. Paul-Émile qui a quitté, qui fuit un peu le domicile familial. Paul-Émile qui boit de l'alcool, qui est un coureur de jupons. Bref, pas un homme particulièrement recommandable, qui a quitté donc sa femme et qui est allé refaire sa vie avec une autre femme sans se divorcer. C'était pas vraiment la norme à l'époque, bien sûr. Et il a fait des enfants avec cette autre femme-là. Et soudainement, toute cette famille-là revient dans la vie de Rose, et Rose, qui est une femme très réservée, j'allais dire très respectable, mais bon, c'est le titre du film, et donc qui doit apprendre à gérer avec ça, Rose, qui n'a jamais été maman, même si elle était mariée, en fait encore mariée, elle s'est liée avec Paul-Émile pendant plusieurs années, ils n'ont jamais eu d'enfants ensemble, et là donc, se retrouve à devoir gérer le retour de son mari courailleux, buveur, et ces enfants-là que finalement, elle a toujours, j'imagine, voulu avoir, mais donc qu'elle a jamais eu. Elle devient un peu une mère de remplacement. Donc voilà, c'est le contexte du film. Puis bien sûr, bon, avec, on dit des années 30, c'est l'Église, c'est les rôles traditionnels au sein de la famille, c'est le mari a raison, bon, en tout cas, dans le contexte de l'époque, on n'est pas du tout en train de cautionner ce genre de choses-là. Donc voilà, c'est un contexte social très particulier et ça donne une teinte assez intéressante, je pense, au film. Est-ce que toi, tu as aimé Une femme respectable?
Oui, j'ai quand même aimé ça, mais au début, j'étais pas sûr. Je dirais peut-être les 15-20 premières minutes, j'étais comme, oh, OK, ça va être long, c'est très lent, c'est oui. Très... c'est comme je pense qu'on disait avant l'épisode, il y a pas d'explosion, il y a pas rien, tu sais, c'est vraiment j'ai rien contre un film qui est plutôt dans les dialogues et tout ça, mais là on est vraiment dans le très minimaliste.
Oui.
Ça se passe presque tout dans des intérieurs, souvent les gens sont assis, ils parlent lentement souvent, il y a des silences. Mais ce qui s'est passé, c'est que après justement peut-être une vingtaine de minutes, j'ai vraiment embarqué, puis tu sais, j'ai réalisé que c'est une histoire qui est, comme tu dis, c'est une histoire simple, mais elle est bien racontée, et j'étais comme, OK, je suis investi dans ces personnages-là, je veux voir où ça s'en va, ça va être quoi la résolution de cette histoire-là, ce qui est quand même bon signe.
Oui, absolument, absolument. Comme je te disais, moi, je connaissais pas, je l'ai mentionné, la cinématographie de Bernard Raymond, et je me disais, bon, est-ce que ça va être effectivement hermétique? Est-ce que ça va être, je ne veux pas dire le mot ennuyeux, mais ça aurait pu paraître, tu sais, tu arrives dans l'œuvre de quelqu'un que tu ne connais pas, dont tu n'as jamais vu les films précédents, et là, tu peux te dire, OK, c'est hermétique, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas le style. Un peu, bon, c'est pas la même chose, mais quand on a parlé de David Lynch récemment, j'avais un peu peur d'arriver là-dedans puis de dire, je comprends pas. Est-ce que c'est moi qui a pas saisi quelque chose? Est-ce que j'aurais dû suivre ces films depuis 30 ans? Bon. Donc, bref, je suis arrivé là-dedans, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui va se passer? C'est un film, en fait, qu'on nous a suggéré. C'est quelqu'un de la maison de relations de presse, là, qui nous a approché en disant, ben, ce film-là sort bientôt. Est-ce que vous aimeriez en faire quelque chose? Avant sa sortie, je pense que ça sort le 18 août, voilà. Donc, dans quelques jours. Et, je me suis dit, ben, pourquoi pas, on aime ça, on sait, toi et moi, on a parlé de cinéma québécois quand on a l'occasion de le faire. Puis effectivement, ça commence, puis oui, le rythme est lent, tout ça, mais j'aimais la subtilité, j'aimais le non-dit, j'aimais cette réserve-là, le personnage principal qui est joué par Hélène Florent, que j'adore, que je trouve qu'elle est une excellente actrice. Et donc, j'aimais cette retenue-là. Et moi aussi, je me demandais qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que, bon, ça va être une histoire un peu plus du genre le mari reconnaît ses torts et là devient un autre homme. Est-ce que il va garder les mêmes travers? Est-ce qu'il va avoir un cas où il va se fâcher? Puis bon, ça va faire comme Adam Driver, puis il va taper dans le mur comme dans A Marriage Story. Bref, j'étais curieux de savoir où ça s'en allait. Puis effectivement, c'est venu me chercher de dire... Tu sais, c'est pas un film qui... J'ai pas pleuré, j'ai pas éclaté de rire. Encore une fois, très dans la subtilité, mais je pense que ça fait du bien, surtout après, bon, The Mummy, puis après Mission Impossible, d'avoir un peu plus de subtilité. Voilà, ça, pour moi, ça m'a fait du bien, dans ce sens-là.
Oui, ben c'est ça, subtilité, c'est le mot juste. c'est vraiment un film qui est austère, qui est, il y a beaucoup de détails dans les décors, dans les costumes, tout ça. C'est un film d'époque, mais il y a rien qui est tape à l'œil. Mm-hmm. Et comme tu disais, c'est pas un film que on se met à pleurer pendant la moitié du film tellement que c'est mélodramatique. C'est tout le contraire. Il y a des émotions, mais les émotions sont souvent pas exprimées ouvertement. C'est un peu ambigu. Et tu mentionnais Hélène Florent, puis ça c'est une des grandes qualités du film. C'est une super actrice. Puis son jeu est vraiment intériorisé et c'est vraiment tout dans... On y revient encore dans la subtilité de son jeu, pas tant dans les dialogues, mais vraiment dans les petits détails de son langage corporel, de ses expressions faciales, que on croit comprendre qu'elle est déchirée un peu. Est-ce qu'elle veut vraiment reprendre son mari éventuellement? Est-ce qu'elle ressent du désir, de l'amour pour lui. Mm-hmm. C'est tout le temps dans les non-dits, on n'est pas sûr, mais ça reste quand même captivant.
Oui, oui, tout à fait. Et tu disais, bon, est-ce qu'elle ressent encore du désir ou de l'amour? On ne va pas évidemment entrer dans les détails, puis il n'y a pas de scène olé, olé, là, c'est pas ça qu'on est en train de dire du tout, mais il y a des moments où tu sens qu'effectivement, l'attrait qu'elle avait pour cet homme-là est encore présent, du moins en partie. Puis Sabot est une femme d'un certain âge, qui d'ailleurs, je pense, tout le temps habillée en noir ou presque. On dirait qu'elle est en deuil de on sait pas trop quoi, de sa propre relation peut-être. Ça reste une personne humaine qui a des sentiments, qui a des désirs, qui est une... Je veux dire, c'est pas parce que t'as 40 ans qu'une femme arrête d'avoir du désir. J'espère. Bref. Donc... Il y a des moments où tu sens que ça perce l'espèce de carapace qu'elle a formée autour d'elle-même, autour de son cœur ou de son corps, peu importe. Et là, tu dis, OK, est-ce qu'il va y avoir quelque chose de comme tu disais, déchiré entre je l'aime encore un peu ou c'est encore mon mari, il est encore beau ou excitant, et le fait que il est parti là, pendant plusieurs années, peut-être même une dizaine d'années. Mm-hmm. Il a fait 3 enfants dans mon dos. Il s'est mis en relation avec une femme qui le manipule du début à la fin, qui vole son argent, qui traite comme un moins que rien. Puis là, il veut revenir et il n'a pas l'air d'avoir changé. Donc, il y a quelque chose... Je voyais son dilemme, là, c'était assez clair. D'ailleurs, c'est drôle parce que je regardais la liste des films, bon, évidemment, d'Hélène Florent, qui, son précédent film, c'était Maria Chapdelaine en 2021, qui est un autre film d'époque, une autre époque, bien sûr, mais quand même. Et Martin Dubreuil, qui joue Paul Émile, qui est l'autre rôle principal, jouait aussi Maria Chapdelaine. Mmh. Donc, peut-être qu'effectivement, bon, j'ai pas vu la version de 2021 de Maria Chapdelaine, mais je me dis, bon, ben, ces acteurs-là se connaissaient. Est-ce que ça a permis de créer, je pense qu'il y avait quand même une bonne chimie, en tout cas, un bon rapport à l'écran, même si c'est entre un mari et une femme qui, bon, sont plus ensemble techniquement, là. Toi, est-ce que tu as jugé qu'il y avait quand même une bonne relation, un bon... je pense que le mot chimie est approprié ici, là.
Oui, c'est ça. T'sais, on parlait d'Hélène Florent, mais Martin Dubreuil aussi, moi, c'est un de mes acteurs québécois préférés. Il est extraordinaire, puis il est vraiment parfait dans ce rôle-là d'un espèce de jobber qui est vraiment libidineux, qui est soifard, qui est vraiment tout... Autant elle, tu sais, le titre le dit, c'est une femme respectable qui fait toujours la bonne chose au bon moment, de la bonne façon. Lui, c'est tout le contraire, c'est vraiment... Puis aussi, elle, c'est comme une bourgeoise, tandis que lui, c'est vraiment la classe ouvrière. Puis c'est ça, qui travaille toute la journée, les mains sales. Après ça, il s'en va boire sa paye, on comprend ça. Puis Martin Dubreuil, il y a vraiment ce côté-là un peu presque animal. Tu sais, c'est vraiment un monsieur, puis je trouve que, comme tu dis, il jouait aussi dans Maria Chapdelaine, il est bon dans les films d'époque parce qu'il y a quelque chose d'un peu intemporel ou d'une autre époque dans Martin Dubreuil qui est comme, ça marche dans un film contemporain, mais aussi dans un film qui se passe dans les années 30, on a l'impression de voir quelqu'un de la génération de nos grands-pères ou arrière-grands-pères, peu importe l'âge qu'on a, là. Il y a comme un côté très très québécois, très quelqu'un, ben c'est ça, comme je disais, classe ouvrière, tout ça. Puis ça m'a vraiment impressionné, sa performance, là.
Mais c'est drôle que tu dis ça, parce que bon, je suis d'accord avec toi, mais la photo qu'on a, moi, je suis sur le site cinoche.com, et dans la fiche biographique de Martin Dubreuil, on voit lui, évidemment habillé en contemporain, avec une boucle d'oreille dans l'oreille gauche, et pas de barbe, pas de moustache, rien. Et dans le film, il me dit justement la moustache un peu, justement, années 30, avec le costume, veston, cravate et le chapeau. Puis là, je le vois une espèce de... Je ne vais pas dire, tu sais, Gino, mais tu sais, il y a quelque chose de très, ben, très moderne.
À la base, moi, je l'ai connu en tant que rockstar.
Okay.
C'est un des membres des Breastfeeders. Puis, tu sais, c'était vraiment quelqu'un qui était une énergie incroyable sur scène, vraiment un rocker. Puis, je l'ai déjà croisé dans des soirées bien arrosées, tout ça. C'est vraiment... Il y a ce côté-là, mais c'est ça, c'est vraiment... Il a fait ses preuves comme acteur et... Oui. Il est convaincant dans à peu près n'importe quel rôle, puis là, justement, de plonger dans une autre époque, puis de sortir, mettons, de l'escogriffe, il réussit à nous faire oublier, mettons, si on connaît sa personnalité de rockstar, là.
Mm-hmm. Ben, d'ailleurs, il est aussi à l'affiche, en fait, il joue aussi dans un film qui est encore à l'affiche en ce moment, donc « Le temps d'un été ». Donc, c'est un doublé Martin Dubreuil, ça vous intéresse, ça doit être encore possible au cinéma.
Oui, j'ai pas vu « Le temps d'un été », mais sauf erreur, je pense que c'est le plus gros succès québécois au box-office de l'année. Là. Il a dépassé le million, tout ça. Fait que
wow! Okay.
Je l'ai malheureusement pas encore vu, mais c'est sûrement, j'en ai entendu quand même des bons échos, là.
Ben écoute, en tout cas, peut-être un prochain épisode ou éventuellement juste pour le plaisir, chacun de notre côté, on pourra voir le temps d'un été. J'aimerais t'entendre sur les deux personnages secondaires, le personnage du notaire et celui du prêtre ou de l'abbé, je ne sais pas c'est quoi son poste exactement là, dans la hiérarchie de l'Église, mais on a ces deux personnages-là qui sont assez présents dans le film. Qu'est-ce que tu as pensé de leurs interventions puis de leur point de vue sur la situation entre Paul-Émile et Rose?
Ben, c'est quand même particulier. Moi, ça m'a pas nécessairement choqué, mais je pouvais imaginer, mettons, un jeune spectateur ou une jeune spectatrice qui est plutôt féministe, tout ça, de dire « Wow, OK, c'est vraiment... Bon, c'est une autre époque, là,
oui.
Mais vraiment les deux messieurs qui viennent un peu essayer d'influencer la femme puis lui dire quoi faire. » Encore là, je dis, c'était l'époque, dans ce temps-là, l'Église catholique, c'était super puissant, puis tout ça, puis c'était pas... Je suis même pas sûr que les femmes avaient le droit de vote en 1931.
Pas au Québec, non.
Pas au Québec, c'est ça.
1941 pour les femmes au Québec, oui.
C'est ça, puis donc, mais avec nos yeux de 2023, c'est comme, wow, OK, il y a vraiment un côté. Puis aussi, je pense que c'est quelque chose que des fois les gens critiquent ou se moquent un peu de Bernard Aymon, qui est quand même, on le sent nostalgique du bon vieux temps, puis dans le temps qu'il y avait les valeurs catholiques et tout ça, ce qui est pas tout mauvais, tu sais, il y a des bonnes valeurs qui peuvent être associées à ça, mais c'est ça, il y a quand même une partie de moi qui, quand le curé parlait, tout ça, qui était comme, ah, OK, c'est... Je pensais qu'on était parti de ça, puis tu sais, oui, on en est parti dans la société, mais... sent que le film est quand même sympathique à ce que le curé dit. J'avais presque l'impression que le curé, c'était un peu l'alter ego de Bernard Aymon. Même, si je me trompe pas, me semble visuellement, l'acteur qui joue le curé, il a un petit côté Bernard Aymon, là.
Ben, c'est Paul Savoie là, qui joue le curé. Je ne pourrais pas dire à quoi ressemble Bernard Aymon. Je pense que je le vois. Tu vois, il y a une photo là, dans la presse, aussi de la presse. Effectivement, il y a un petit air de famille. Je pense que c'est probablement voulu. Je suis d'accord avec toi sur la question des valeurs, puis de dire, tu sais, non, ça n'a pas de bon sens qu'ils viennent dire, ah, il faut apprendre à pardonner, ou il faut... c'est presque de dire, il faut être, c'est bon, il faut... Tu te reviens à ton ménage avec lui parce que le pauvre homme, tu sais, il a tellement souffert. Mais d'un autre côté, il y a un certain progressisme, encore une fois, tout en nuance. Il y a certains moments donnés où, bon, autant le notaire que le prêtre vont dire, ouais, tu sais, c'est un courageux, il boit. Ils ont presque. Des fois, on sent qu'ils ont peur qu'il devienne violent, peut-être avec sa femme ou de. on sent quand même une sympathie pour la cause de Rose. On sent qu'ils sont pas, tu sais, c'est pas simplement, ben, fille, tu vas faire ce qu'on dit. Puis, heureusement, d'ailleurs, là, je pense que j'aurais voulu puncher mon écran. Mais, tu sais, ça, blague à part, je trouve ça intéressant d'avoir cette nuance-là. Évidemment, comme tu l'as dit, c'est l'époque, il y a quasiment 100 ans. Tout à l'heure, je parlais du fait que le divorce, c'était très mal. Je sais même pas si c'était possible légalement à l'époque, peut-être. Mais bref, c'était certainement très, très, très mal vu. Même si dans ce cas-là, bon, Rose avait de l'argent, tout ça, c'est elle qui a les sous. C'est ça, il y a toute cette question-là, cette espèce de chape de plomb là, sociétale à l'époque sur les femmes, sur les familles. Mais bon, ça donne un espace de réflexion. Comme tu dis, bon, peut-être que Bernard Raymond aimerait ça revenir aux temps anciens. Certainement, il a choisi des très, très belles bâtisses d'époque où tourner. Je pense que c'est dans évidemment des monastères, tout ça. Je pense qu'il y a une bâtisse aussi, la Maison de Rose, magnifique, les boiseries d'origine, tout ça, les meubles entretenus. Je sais pas toi si à ton âge t'es rendu comme ça, mais moi je regardais ça puis je dis ah c'est beau, c'est des beaux meubles, c'est des belles maisons, ça doit être compliqué à entretenir. Toi t'avais-tu cette réflexion là un petit peu?
Ça s'est pas rendu à l'entretien, mais c'est vrai que c'est beau. Puis ce qui m'a le plus marqué, c'est les quelques scènes qui se passent à l'extérieur quand Rose marche à travers Trois-Rivières. Je me faisais la réflexion parce que moi, j'ai grandi à Trois-Rivières, puis je suis même retourné y vivre en 2009, puis j'ai de la famille là-bas, fait que je suis quand même retourné souvent. Puis dans le vieux Trois-Rivières, il y a vraiment des places où que c'est tout ancien, des trucs religieux ou des trucs vraiment qui ont été préservés. Puis là, je faisais « wow, il a bien choisi de situer son histoire à Trois-Rivières parce que c'est comme plus facile de retrouver vraiment des lieux à l'extérieur, du moins, où tourner, ou que vraiment ça a l'air d'être en 1930, là.
Oui, ben je pense que ça aurait été compliqué à Montréal, peut-être. On a évidemment des bâtiments qui datent de cette époque-là ou d'avant, mais ça donne sur une rue contemporaine ou ça donne en face d'un immeuble de logement standard. Donc, c'est plus difficile de faire des plans larges dans ce temps-là. Tu imagines la grosse scène dramatique devant un bâtiment d'époque, puis là, t'entends le ding-ding d'un Bixi, là, de quelque chose qui fonctionnerait pas. Côté musique, est-ce que toi, t'as apprécié juste assez? Ben, c'est quand même un peu discret aussi, à l'image du film, bien sûr, là.
Ouais, ben c'est de la musique classique. Ça convient à l'atmosphère du film. C'est très, c'est ça. On reste dans la subtilité. C'est pas la grosse musique intense comme dans Oppenheimer, mur à mur, avec le son IMAX. Là, on est vraiment plus des quelques petites pièces de classique, souvent au piano qu'on entend ici et là.
J'avoue que je pourrais pas, tu sais, je veux dire, évidemment, la musique, je l'ai entendue, mais je pourrais pas dire, tu sais, cette pièce-là, spécifiquement, c'était, tu sais, il y a pas vraiment de moment, par exemple, où il y a une envolée lyrique, et là, c'est comme, ah, la musique embarque, c'est, encore une fois, on est dans la subtilité, puis dans la nuance. Donc, je pense que, effectivement, ça, c'est bon. C'est là, c'est pas désagréable, ni particulièrement agréable, mais effectivement, ça nous permet d'apprécier peut-être un peu plus certaines scènes, certains moments du film. J'avais vu quelques informations intéressantes comme quoi ça a été adapté d'une nouvelle donc de Luigi Pirandello, que je n'ai pas lu. Mais c'est ça, c'était bon. On imagine que ça se passait ailleurs.
Ça se passait en Italie, mais aussi dans les années 30, puis Bernard Raymond a choisi de... T'sais, ça aurait été un peu plus compliqué de faire un film qui se passe en Italie, alors que lui, il est québécois, il tourne ses films au Québec, fait qu'il a simplement transposé l'action, il a choisi Trois-Rivières. Je pense qu'il disait que ça faisait longtemps qu'il voulait faire un film qui se passait à Trois-Rivières.
Puis de toute façon, bon, que ce soit en Italie ou au Québec dans les années 30, comme tu disais tout à l'heure, la présence de l'Église, le poids de l'Église catholique était très, très, très important. Donc, on n'est pas, ça dépareille pas. Là. On ne sent pas projeté ailleurs. On est au Québec.
Oui, puis je pense aussi qu'un des trucs qui se retrouvait autant en Italie qu'au Québec, c'est comme les différentes classes. d'avoir la classe ouvrière, d'avoir la bourgeoisie, tout ça dans un même environnement. Là, ça marchait à Trois-Rivières.
Dis-moi, est-ce qu'il y a des choses que t'as moins aimées, peut-être, dans le film?
C'est ça. Ça revient à ce que je disais au début. C'est sûr que faut s'attendre à un film qui est lent, qui est pas spectaculaire, qui est vraiment tout en ton, en teint de... pas nécessairement de gris, mais tu sais, il y a un côté... Mm-hmm. C'est pas un film ultra coloré et lumineux. C'est ça, c'est vraiment... Je l'ai dit plus tôt, c'est comme un film qu'on aurait pu voir en 1940. C'est très classique, non seulement la musique, mais dans la mise en scène. On est à des années-lumière, mettons, que tu sais, toi et moi, je sais qu'on a vu Les Chambres rouges, des films québécois qui est en salle en ce moment. Puis Les Chambres rouges, c'est un film vraiment contemporain, moderne, super de son époque, justement, avec l'Internet puis tout ça. Tandis que là, on est vraiment en 1930 et c'est ça. Mais c'est bien fait, c'est bien raconté. Il n'y a pas vraiment de gros défauts dans le film. C'est vraiment si on est ouvert, si on fait preuve de patience devant ce type de film-là, c'est un film qui fonctionne quand même.
Oui, puis bon, de toute façon, c'est pas excessivement long non plus. C'est pas un film de 3 heures, c'est 1h43. Donc, ça se rapproche de notre norme, notre gold standard, comme on dit en bon français, de 90 minutes. Non, effectivement, moi, j'avais peur. Je me disais, bon, est-ce que c'est 3 heures? Si c'est 3 heures, peut-être que là, effectivement, ça va être trop lent, trop long. Mais non, 1h43, c'est très, très, très correct comme durée. Ça prend l'affiche au beau bien, donc à partir de vendredi le 18 août. Ça prend l'affiche aussi, évidemment, ailleurs au Québec, mais là, ici, sous les yeux, j'ai les informations pour les séances au beau bien, donc à Montréal. Évidemment, vous pourrez trouver en ligne là, d'autres infos sur d'autres cinémas à travers le Québec. Moi non plus, c'est ça, j'ai pas de défaut comme tel. En fait, ça serait reprendre exactement tes mêmes arguments, donc on va peut-être s'épargner cette redite. J'imagine donc que tu le recommandes, effectivement,
C'est ça, je pense qu'on l'a assez bien décrit, que les gens savent à quoi s'attendre. Oui. Si ça vous intrigue, et puis surtout, si vous aimez en général le cinéma québécois, ça vaut quand même la peine de le voir, surtout pour Hélène Florent, pour Martin Dubreuil, qui sont des super acteurs, puis que juste pour ça, je pense que ça vaut quand même la peine de le voir.
Oui. Puis avant qu'on se laisse, deux choses. Ben la première, c'est ça, c'est que bon, j'ai une entrevue que M. Aymon a donnée à la presse. Là. J'ai ça sous les yeux. Et bon, il parle de la culture d'aujourd'hui où tout le monde se voit en victime. Il dit surtout, bon, les gens veulent se montrer à tout prix comment ils sont bons, sont parfaits, sont pas racistes et se donner bonne conscience. Il dit souvent, les gens ne sont ni bons ni méchants ou sont les deux à la fois. Et je pense que ça résume quand même bien les personnages de Paul-Émile et de Rose. Sans dire évidemment que Rose est méchante, mais on sent peut-être, puis je suis pas du tout en train de prendre la défense d'un mari courageux qui boit, mais qui fait des enfants dans d'autres sa femme aussi, mais de dire, bon, effectivement, il y a des nuances. Il y a toujours une question de, bon, est-ce qu'elle l'aime encore? Est-ce qu'elle est prête à lui pardonner? Pas juste par charité chrétienne, mais par amour. Donc, ces questions-là sont, disons, abordées sans être nécessairement... sans trouver de réponse définitive, mais c'est ça. C'est des choses intéressantes mises de l'avant par Bernard Raymond. Avant qu'on se laisse, bon, je pense qu'on a encore quelques minutes devant nous. Est-ce qu'il y a des choses, tu disais, on avait vu récemment Les Chambres rouges, d'ailleurs, qui m'ont un petit peu empêché de dormir, étrangement. C'est pourtant pas un film horrible, mais qui... C'était une ambiance malsaine à souhait.
Ben, c'est ça, c'est pas... Dans Les Chambres rouges, c'est pas graphique, il y a pas de grosse scène avec du sang qui gicle, mais c'est beaucoup dans la suggestion, dans les crimes du tueur en série qui sont décrits lors d'un procès. Et oui. Si on a l'imagination fertile, c'est presque pire de s'imaginer ce qui s'est produit. Là.
Oui. Est-ce que tu as vu d'autres choses toi, pendant les deux semaines où on n'était pas là? Tu as vu des choses intéressantes ou décevantes? Qu'est-ce que tu as vu de notable là, récemment?
Ça, c'est un des très bons que j'ai vu. Sinon, j'ai vu J'ai vu un autre film qui était présenté à Fantasia, le film avec Nicolas Cage, Sympathy for the Devil, que j'ai bien aimé, qui m'a quand même été une belle surprise, parce que c'est un film qui est comme un peu, qui se passe presque au complet dans une voiture. Fait que je me disais, ah, ça va-tu te tenir la route pour faire un mauvais jeu de mots? Mais non, ça, je trouvais que c'est un film qui fonctionnait bien. Puis je me souviens pas si on l'a mentionné au podcast ou pas, ça fait quand même un bout de temps qu'on a fait un épisode, ouais. Mais moi je suis allé voir deux fois en salle Oppenheimer de Christopher Nolan, puis d'accord. Moi c'est pas mal mon film de l'année à date, là. Je trouve vraiment que c'est un chef-d'œuvre, je sais pas si tu l'as vu. Là.
Je l'ai pas encore vu, je pensais aller le voir, là. C'est ça, je suis parti dans le bois pendant presque une semaine, c'est un peu dur de... Enfin, j'aurais pu aller au cinéma par exemple à Shawinigan ou ailleurs, j'étais en mort ici. Mais bon, ça n'a pas donné. On voulait sortir effectivement de la ville, ma conjointe et moi. Mais malgré tout, malgré ça, j'ai amené un ordinateur portable au chalet et j'ai écouté des films. Le soir, quand il n'y avait rien à faire, j'ai vu Asteroid City, le dernier de Wes Anderson, que j'ai aimé un petit peu. Ça en allait un peu dans toutes les directions, je trouvais. Toi, je pense que tu l'as vu, ça se peut, oui.
Oui, j'ai quand même bien aimé. Moi, je suis un fan de Wes Anderson. Je sais qu'il y a beaucoup aussi, de gens qui sont tannés de son style, qui est très distinctif, mais moi, j'y prends encore plaisir.
Mais je trouvais qu'il y avait peut-être trop de niveaux de scénarios qui s'imbriquaient les uns dans les autres. C'est pas un mauvais film, mais peut-être... J'ai préféré, par exemple, Grand Budapest Hotel. Mais bon, ça, c'est chacun son choix là-dedans. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Je vais pas faire la liste exhaustive parce que, bon, de toute façon, certaines œuvres, je vais en faire la critique sur pieuvre. Mais j'ai vu Corner Office, ça, j'en ai parlé là sur Twitter, avec John Hamm, qui est un mélange. Et les gens qui connaissent un peu le style vont... trouvais ça intéressant. C'est un mélange de Severance et de Stanley Parable. Stanley Parable qui est un jeu vidéo qui est justement sur le travail de bureau qui donne dans l'absurde et dans le fantastique un peu. Et Severance qui est une série télé, une excellente série télé sur Apple TV, ouais. Pas Apple Plus. Il y a trop de services. donc sur Apple, le service d'Apple avec, et là le nom m'échappe, le gars de The Office. Bref. C'est excellent. Si vous avez l'occasion de voir ça, c'est très, très bon et c'est surprenant et ça fait penser un peu à Lost, mais meilleur. Voilà. Fait que j'ai écouté ça quand on a un film avec John Hamm. Puis bon, j'ai écouté aussi The Bear, la série télévisée.
Ah, je suis en train d'écouter la saison 2. C'est tellement bon.
Oui, ben écoute, je vais me mettre à la saison 2 bientôt, mais j'ai aimé la saison 1. Ça aussi, j'en ai fait une critique sur Pieuvre qui va être publiée. Là, au moment où vous allez écouter cet épisode-ci, ça devrait être en ligne. Donc, saison 2, ça va suivre. Bref, voilà. Fait que j'ai eu le temps de m'occuper un peu quand même dans les longues heures de fin de soirée où il se passait pas grand-chose. Dans le chalet, entre ça et entre différents romans que j'avais amenés avec moi. Donc voilà, fait que ça fait un peu le tour, je pense, de ce qu'on a vu récemment. On va se reparler, probablement dans les prochains jours, toi et moi, pour trouver un autre sujet d'épisode. C'est pas les choix qui manquent. On nous a approchés, je pense, pour 3 ou 4 films là déjà. Et je sais qu'il y a des festivals qui s'en viennent aussi. Nouveau Cinéma, d'ailleurs, qui ont annoncé... c'est Nouveau Cinéma, Cinémania. Bref, ça se bouscule au portillon. Le Fantasia vient de se terminer. Donc, ça, il va rester le Nouveau Cinéma. Il va rester les RIDM pour les documentaires. Il va rester Cinémania. Ça, c'est juste à Montréal.
C'est ça. Sinon, il y a le Festival de cinéma de la Ville de Québec qui est en septembre, qui ont annoncé, je crois, le film d'ouverture. Fait que il y a pas mal de stock qui s'en vient.
Voilà. Peut-être qu'on se fera un road trip à Québec pour ben aller au festival. On peut s'organiser ça, certainement. Bref, voilà. Donc, il y a des choses qui s'en viennent. On vous tient évidemment au courant de notre prochain épisode. Bien sûr, là, on l'a annoncé il y a quelques semaines déjà. Au début du mois de septembre, vous aurez aussi notre nouvel épisode bonus qui est Gladiateur. Donc, on a fait ça pour nos abonnés Patreon. C'est déjà disponible sur Patreon pour les abonnés à 5$. Donc, si vous voulez écouter tout ça, vous avez eu le petit laïus au début de l'épisode, bien sûr. Mais donc, voilà. Sur ça, bien, écoutez, on vous laisse. Pour l'instant, je le disais la dernière fois et on continue de croiser les doigts. Facebook considère pas qu'on est assez important pour nous bloquer. Donc, on est toujours disponible. La page Facebook du podcast est disponible. Allez vous abonner. On met des bandes annonces là-dessus. On parle de ce qu'on a vu récemment. On met les articles. nom de critiques écrites, qu'on met ça là-dessus aussi. Bien sûr, si vous voulez tous les contenus échapper aux algorithmes, échapper à la censure, on a la bande-annonce, oui, on a l'infolette, voilà, de Pieuvre. Donc, c'est ça, tous les samedis, vous avez l'intégralité des contenus, les articles, les critiques, les podcasts, tout ça, c'est gratuit, ça s'en va dans votre boîte de réception et ça prend quelques secondes pour vous inscrire. Allez sur pieuvre.ca, c'est très, très simple. Sur ce, ben Kevin, merci encore une fois.
Merci à toi, c'était vraiment le fun.
Effectivement, et donc, merci à vous d'être là, d'être fidèles, chers auditeurs, et je vous dis à la prochaine.